Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes, et comme chaque deuxième tumulte de chaque mois, la chronique des ballons ou une certaine histoire du football présentée par Thierry Crépin. Puis dans 30 minutes, le journal de tumulte avec un invité, Patrice Budzinski, nouveau directeur de l'aéronef à Lille. C'est le contenu de ce tumulte numéro 979. Jean au micro, salut. Natacha Atlas, extrait de son dernier album, Anna Hina. Thank you. Natacha Atlas dans le magazine Tumult. Et dans 30 secondes, c'est la chronique des ballons présentée par Thierry Crépin. La chronique des ballons, ou une certaine histoire du football présentée par Thierry Crépin chaque deuxième tumulte de chaque mois.
Salut à tous. L'actualité du football est assez troublée en France en ce moment. Une grève des footballeurs en préparation. Le classique Marseille-Paris-Saint-Germain n'aura peut-être pas lieu. Et une équipe de France en danger d'être éliminée de la Coupe du Monde. Ce à quoi nous n'étions plus habitués. Et un sélectionneur menacé. Or, il est déjà arrivé à plusieurs reprises que l'équipe de France soit éliminée dès les éliminatoires de la Coupe du Monde. L'équipe de France avait participé aux trois premières Coupes du Monde, 1930, 34, 38, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc la Coupe du Monde doit être organisée au Brésil en 1950, et l'équipe de France joue sa qualification dans une dans un duel aller-retour avec la Yougoslavie. Et après deux matchs nuls, une rencontre de barrage est organisée où la France s'incline après prolongation. Et malgré cette élimination sur le terrain, les Brésiliens convient les Français à participer à la Coupe du Monde car plusieurs équipes européennes ont déclaré forfait. Et les dirigeants de la Fédération française sont tellement persuadés que l'équipe de France va prendre des valises au Brésil qu'ils refusent le repêchage. Donc voilà pour l'élimination 1950. 1954, la France est en Suisse. 1958, c'est la glorieuse expédition en Suède. 1962, aurait dû, donc la Coupe du Monde au Chili, aurait dû se préparer sous les meilleurs auspices avec les cadres de l'équipe de France qui avaient participé à la Coupe du Monde en Suède. Mais le sélectionneur Georges Verriest a fait le vide des anciens coéquipiers de Suède, et notamment il est en conflit avec Raymond Kopa. Ce qui fait que lors des matchs de préparation à la Coupe du Monde, de moins en moins d'anciens de la Suède jouent en équipe de France. Et à l'époque, la différence de but n'est pas prise en compte. Et alors que les Français ont une différence de but très favorable face aux Bulgares, les Français ont battu les Bulgares 3-0 à Paris avec 5 anciens de la Suède, mais ils s'inclinent 1-0 à Sofia avec un seul ancien de la Suède. Donc un match de barrage est obligatoire. Et ce match de barrage est perdu par les Français, qui, après leur glorieuse troisième place de 58 en Suède, n'iront pas au Chili en 1962. 1966, la France et l'Angleterre. 1970, le tirage apparaît très favorable pour les Français avant la Coupe du Monde au Mexique. La Suède et la Norvège, qui sont loin d'être des cadors du football européen à l'époque. Et on voit déjà l'équipe de France au Mexique. Mais on est allé à une époque où le sélectionneur du Gauguez change fréquemment son équipe, donc pas de stabilité des joueurs. Il n'y a plus de stade à Paris qui accueille l'équipe de France. Le Parc des Princes est en destruction avant d'être reconstruit. On choisit une ville qui n'est pas une grande ville de football à l'époque, Strasbourg, pour accueillir le premier match contre la Norvège. Des amateurs, on va leur mettre une valise. La meilleure équipe de football français est Saint-Étienne à l'époque, mais Dugauguez retient très peu de Stéphanois après une défaite en match amical contre l'Espagne. Et ce qui ne devait pas arriver arrive. Les Norvégiens battent les Français à Strasbourg. Sur la lancée, les Français sont battus en Suède. L'équipe de France est éliminée avant même la fin des éliminatoires. À la surprise générale. Bon, il s'avère que cette équipe suédoise est composée de joueurs qui allaient jouer dans les meilleurs clubs européens au début des années 70. 1974, ce n'est pas mieux. Éliminé par l'Union soviétique et même pas capable de battre l'Irlande du Sud. Période de face, 78, 82, 86. 1990, l'équipe de France est en pleine reconstruction. Elle va jouer à Chypre, a priori une des équipes les plus faibles d'Europe. Pas de problème. Et si, match nul dont l'équipe de France ne se relèvera jamais. C'est le point qui lui manquera pour se qualifier à la Coupe du Monde 90. 1994, c'est digne du gag. Coupe du Monde aux États-Unis. Après un départ difficile, une défaite en Bulgarie, les Français enchaînent les bons résultats. Il reste deux matchs à jouer à domicile contre Israël et la Bulgarie. Les Français ont battu Israël en Israël 4-0. Ils sont donnés archi-favoris. Une victoire contre Israël à Paris les qualifie à la Coupe du Monde, avant même le dernier match éliminatoire. Les joueurs sont tellement sûrs de se qualifier qu'ils font la fête pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux avant le match. Et, gag, les Israéliens gagnent 3-2. Mais, ça n'est pas fini. Un match nul contre les Bulgares est suffisant à Paris pour se qualifier. 89e minute, la France et la Bulgarie sont à égalité un but partout. On s'apprête à pousser un grand ouf de soulagement. Et là, Ginola veut jouer au Cador. Coup franc près des buts bulgares. Ginola veut absolument que la France marque un but. Il envoie un boulet de canon que Cantona ne peut pas récupérer, mais qu'un défenseur bulgare récupère, qui catapulte la balle sur son ailier Kostadinov, qui fonce au but et marque 2-1, dernière seconde de jeu. La France est éliminée de la Coupe du Monde des États-Unis. 98, donc la belle victoire. Et d'ailleurs, en 94, après la défaite contre la Bulgarie, Libération avait titré « La France est qualifiée pour la Coupe du Monde, 3 points, 1998 ». Et donc 98, donc fabuleuse victoire. 2002, on est en Corée, mais c'est un peu la honte. 2006, ça part très mal, mais le retour de Zidane, Makelele et Thuram sauvent Domenech et envoie la France quand même en finale de Coupe du Monde. 2010, c'est mal barré. Hein. Défaite en Autriche, victoire contre la Serbie, et là, match nul, heureux en Roumanie, après avoir été mené 2-0. Donc, est-ce que 2010, ça sera à nouveau la honte pour l'équipe de France? Nous le saurons bientôt.
Alors Thierry, avant de nous quitter, un petit mot sur un bruit de grève des joueurs et des dirigeants?
Oui, c'est-à-dire qu'au groupement, à la Ligue professionnelle de football, donc les dirigeants qui n'ont pas la majorité actuellement veulent une réforme qui leur donnerait la majorité et accentuerait leur pouvoir sur les joueurs. Donc les joueurs qui ont beaucoup de pouvoir et qui obtiennent d'énormes salaires actuellement ne veulent pas perdre leurs avantages et craignent de perdre leurs avantages avec cette réforme. Et donc l'Union nationale des footballeurs professionnels fait le tour de France des clubs en ce moment pour convaincre les footballeurs français de ne pas participer à la prochaine journée de championnat, donc ce qui mettra en péril le prochain Marseille-Paris-Saint-Germain. Et d'ailleurs, plusieurs dirigeants de clubs, pardon, ont interdit aux délégués syndicaux de l'UNFP d'entrer dans les stades, d'entrer dans les camps d'entraînement pour rencontrer les joueurs, tellement ils sont inquiets de cette perspective de grève.
C'était la chronique des ballons. Une certaine histoire du football présentée par Thierry Crépin, chaque deuxième tumulte de chaque mois. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans 12 minutes, le journal de Tumulte, nous recevrons Patrice Budzinski, nouveau directeur de l'aéronef à Lille. D'ici là, musique avec Cannes. Extrait de la musique du film Deadlock.
The greatest thing above, but no one knows it. The world will look at me. I'll meet Samurai Cranston. He's tricky, he is here. He never gave you his philosophy. As a mimic to holy man, where a tiny man's account come from. You just see me like banana. Can you hear me, my friend? Don't pray for which girl. Why don't you dedicate to follow chicks so stupid Saturday?
on reste encore en compagnie de Cannes. Et juste après, ce sera le journal de tumulte avec Guy. Nous recevrons Patrice Budzinski, nouveau directeur de l'aéronef à Lille. Cannes, extrait de l'album Bamiyazi.
Yeah.
après Cannes, le journal de Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Le journal de Tumulte avec Guy. Nous recevons Patrice Budzinski, nouveau directeur de l'aéronef à Lille. Eh bien, salut Patrice.
Bonsoir.
Salut, salut Guy.
Salut.
Ouais.
Ah, on est impressionné, hein, on peut le dire tout de suite. Hein.
Ah oui, on a un directeur.
Directeur, puis en plus, moi je pense, moi je l'ai pas vu depuis un moment, mais il a fortifié quoi, hein, physiquement là. Il a mangé de la soupe depuis quelques années. Non mais moi il m'impressionne. Hein.
C'est bien.
Ça commence fort. Alors Patrice, la direction de l'aéronef, on peut considérer de manière classique que c'est un aboutissement d'une carrière, en tout cas une étape nouvelle, une carrière qui a commencé à Arras. On va commencer par là. Patrice Budzinski, on t'a rencontré d'abord à Arras, programmation musicale au Pharos.
Au Pharos, mais c'est vrai que avant le Pharos, c'était avant tout un investissement sur un profil plus social dans les quartiers ouest, qui m'avait amené à considérer effectivement la culture comme un vecteur pour travailler au mieux vivre ensemble. Donc mes premières armes effectivement sur de la programmation et sur un lieu de production de spectacle, c'était le Pharos.
C'est-à-dire qu'au départ, tu étais embauché par l'ADACOA, qui était l'association de développement...
C'est l'association de développement des quartiers ouest d'Arras, qui était en fait une structure associative adhérente de la fédération Léo Lagrange. Donc je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, pour moi, c'était un tout démarrage de mon projet professionnel, parce que j'avais rencontré le responsable qui m'avait sollicité pour donner... des cours et faire de l'accueil de façon informelle dans les clubs qui étaient sur place. Et il y avait un gros projet de restructuration du DMJC et on avait commencé à expérimenter sur le quartier des projets à vocation culturelle, je pense notamment aux arts de la rue, où sur un mode participatif les jeunes produisaient en fait une manifestation autour du graphe avec en point de mire un concert. Donc ça, c'était vraiment les tout débuts pour moi. Quoi.
Donc immédiatement, ouais. Un mix entre l'action culturelle et l'action sociale.
Oui, en fait, le terreau, c'était ça. L'idée, c'était...
Au départ, tu es animateur socioculturel.
Mon profil, c'était animateur socioculturel. La grande chance que j'ai eue, c'est de pouvoir marier et faire combiner ma passion pour la musique avec... cette dimension citoyenne qui m'habite encore aujourd'hui quand j'interviens sur mes différentes fonctions.
D'accord, alors le Pharos créé en fait, puisque auparavant c'était la maison des jeunes, le Pharos en tant que tel n'existait pas. C'est le Pharos créé en tant que salle de concert.
Enfin, en tout cas, travailler comme une identité d'une salle à part entière. C'était pas une MJC de plus qui de temps en temps faisait un petit moment festif. Nous, notre idée, c'était de créer une salle de spectacle qui allait désenclaver le quartier et rayonner au-delà des problématiques de territoire. Et voilà, l'idée, c'était aussi de travailler cet aspect symbolique qui permettrait de percevoir la cité et le quartier différemment qu'à travers la rubrique des faits divers.
Ouais, et de faire en sorte aussi que des gens viennent dans les quartiers ouest d'Arras. Des gens qui n'y habitent pas, donc des gens par exemple du centre-ville, mais aussi de toute la région. Et on a vu effectivement sur les concerts du Pharos une arrivée massive et même, on peut dire, devenue habituelle,
oui, en fait,
régulière dans les quartiers ouest.
L'enjeu, il était là et ça a été au-delà de nos espérances parce que les gens qui n'avaient pas d'a priori, c'était ceux qui venaient de loin, parce que pour eux, voilà, ils venaient voir un concert qui était programmé. Je me rappelle, il y avait pas mal de Belges qui venaient voir parce qu'on avait une programmation très pointue sur des esthétiques comme ça de hardcore américain. Et bon, les gens, ils n'avaient pas d'a priori, ils venaient jusque là. Ce qui était vraiment, on a vu comme ça se modifier les comportements des habitants et même ceux du quartier qui se sont appropriés le projet, parce qu'autour de la salle gravitait tout un tas d'ateliers qui se servaient des spectacles comme matière première pour mener leurs actions. Je pense à l'atelier vidéo à l'époque ou l'atelier photo. Et on a vu aussi des jeunes se sentir valorisés par le fait que effectivement des artistes jouaient là, et ils finissaient par dire bah voilà, j'habite le quartier du Pharos et non plus j'habite la résidence Saint-Paul.
Alors le Pharos, c'est combien d'années de programmation musicale et d'action culturelle et sociale sur le quartier?
Bah, il y a eu tout un travail de préparation, enfin, on peut pas parler de préfiguration parce que c'était surtout le projet de la maison des jeunes qui avait anticipé la création de la salle. Et après, dans le fonctionnement, en fait, ça n'a duré que 3 ans.
Trois saisons
complètes. Ouais.
D'accord. Alors bon, pour remettre les choses en mémoire, quelques noms de formations qui sont venues dans la programmation.
C'est là qu'on doit sortir les noms qui font bomber le torse. Dans les plus connus, on a accueilli, parce que c'est d'actualité, c'est pour ça que j'en parle, il y a NTM qui était venu jouer sur la toute dernière saison. Là, on voit que ça remplit des Bercy, mais à l'époque, sur la tournée de Paris sur les bombes, on avait eu la chance de pouvoir saisir cette opportunité. On avait eu d'ailleurs faire un mariage avec le théâtre d'Arras, parce que économiquement, on n'avait pas le budget, nous, pour produire le concert d'NTM. On a eu aussi des artistes comme Edwin Collins.
Avant de parler de ça, NTM, quand même, signaler que ça a été un concert difficile parce que la nouvelle municipalité à l'époque remettait en cause ce concert. Enfin, il y avait une plainte des jeunesses du Front National, si je me souviens bien.
Non, mais je pense qu'effectivement, il y avait une espèce de tempo sur les choses telles qu'elles étaient arrivées qui a rendu la chose un peu cocasse. Et c'est effectivement, moi, quand j'ai dealé cette histoire de NTM, ça s'est fait juste avant les municipales et statutairement, l'association, le signataire, c'était le président de l'asso. C'était en fait le maire qui représentait. Donc c'est passé à l'émergement comme ça, sans forcément que le maire sache ce qui était le concert d'NTM. Il y a eu les élections entre dents et voilà, la responsabilité du maire était engagée. Et il y a eu sur cette tournée-là, dès le début, une polémique parce que NTM à Paris a tenu des propos à l'égard des policiers, enfin des renseignements généraux qui étaient dans la salle. Il y a eu une plainte pour incitation à l'émeute à l'égard de la police. Donc il y avait déjà un effet médiatique autour du groupe qui rendait les choses tendues. Et derrière ça, le FN local avait demandé effectivement à ce que le concert soit annulé. Et du coup, la presse quotidienne régionale s'était emparée du truc et avait demandé un peu à Monsieur le maire sa position. C'était compliqué parce que effectivement
c'était pas sous sa direction qui avait été décidé de la programmation.
Oui, et puis en plus c'était difficile pour lui de mesurer un peu tous les paramètres, parce qu'en plus à l'époque c'était la période où il y avait l'histoire du sous-marin à Vitrolles, où la mairie avait été gagnée par le FN, et le premier acte symbolique qui avait été fait, c'était de murer cette salle de concert. Donc, se désengager de ce concert d'NTM, c'était légitimer ce qui avait été fait à Vitrolles. C'était donc voilà. Et puis, je pense qu'il y avait une peur panique sur les cultures urbaines, parce qu'il y avait eu tout un tas d'événements, d'émeutes, qui effectivement, faut pas oublier qu'un maire c'est le premier magistrat d'une ville, et que on a eu quand même des échauffourées sur les quartiers qui pouvaient laisser penser que la situation ne serait pas maîtrisable.
Et en fait, ça s'est passé.
Moi, je me suis retrouvé quand même avec tous les acteurs de cet épisode-là pour devoir expliquer comment j'envisageais la prod. C'est vrai que sur quel que soit le concert de rap, on renforce toujours un peu la sécurité parce qu'il y a une vraie pression à l'entrée sur le resquillage ou certains comportements. Mais le travail du Pharos, enfin, on était tellement ancré dans la cité. Moi, j'étais en capacité quasiment de citer tous les noms des gamins qui étaient venus se présenter à l'entrée du Pharos, quoi. Mmh.
C'était une jolie. C'était la troisième année du Pharos, c'est ça?
C'était la troisième année du Pharos, mais moi, ça faisait déjà 9 ans que j'étais sur le terrain. Donc, voilà, les gars, à la sortie, j'aurais dit, bon, traversez dans les clous, faites rien pour provoquer, parce que quand j'étais chercher Joe Star à l'hôtel, je suis revenu, je suis passé derrière, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait eu un plan rouge qui a été mis en place avec le préfet et monsieur le maire, et il y avait quasiment autant de CRS que de spectateurs. C'était bon, c'est bien, enfin, comme expérience, j'ai trouvé ça plutôt, voilà, intéressant, quoi.
Alors, quelques autres noms.
On a eu Edwin Collins. qui était le membre fondateur des Orange Juice, qui était venu à l'époque de son single Girls Like You. On a eu aussi toute la scène des groupes alternatifs du Do It Yourself, du label Discord. Donc le plus emblématique est Fugazi, mais des groupes comme Girls Against Boy, on a eu aussi Trusty, on a eu Jawbox, on a eu aussi des petites gloires du rock français, de la période du label Closer, comme les City Kids, qui ont été un des premiers groupes à jouer au Pharos. Toute la vague du songwriting et des choses de chez Guitar House comme Larry Barrett, Vic Chestnut. Je dois en oublier certainement, hein, mais si j'ai pas refait mon abécédaire avant d'arriver. Voilà un peu de mémoire. On a eu aussi des projets émergents. Je me rappelle, on était les premiers à faire Asiandum Foundation au Pharos. On a eu aussi des projets avec Radio PFM aussi, où on avait fait des Forget Me Not. Puis tout un tas aussi de projets régionaux, parce qu'on avait toujours une politique pour mettre un groupe en première partie qui soit du coin. Donc voilà, je dois en oublier, aidez-moi, hein, parce que je pense que vous étiez très présent aussi à l'époque.
Bah, on n'a pas tous les noms en tête comme ça. Bon, en tout cas, ensuite...
Les Walkabouts, on a eu quelques groupes aussi du label Sub Pop qui a fêté ses 20 ans, c'est le label qui avait signé Nirvana à l'époque. Mmh.
Alors ce qu'il y a, c'est que les noms, on confond aussi avec la période suivante où le Pharos, c'est pas le Pharos, c'est la programmation du Pharos, la programmation musicale au Pharos qui était faite par toi comme,
ouais, bah après,
comme salarié de la DACOA. Cette programmation se termine et tu deviens salarié du théâtre et fais la programmation musicale actuelle.
Que je fais du très bon travail, mais qu'il faut que j'aille le faire ailleurs.
Donc tu vas le faire ailleurs.
Je le fais ailleurs. Mais bon, j'ai compris quand même qu'il y avait une page qui se tournait, parce que peu de temps après, où j'ai intégré l'équipe du théâtre d'Arras, il y a une équipe municipale qui est venue, qui a démonté le bar du Pharos. Donc j'ai compris que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Il y a des symboliques comme ça qui parlent.
Et un baby-foot installé, je crois.
Et un baby-foot, et donc voilà. Mais bon, on a continué effectivement à faire semblant d'eux, et on a fait les Blondes Redhead, on a fait Giant Sand, on a fait Sergent Garcia, enfin on a fait
ZX.
ZX, tout à fait. ZX. Ouais, c'est ça depuis.
Ouais, il attendait que ça. Hein.
ZX, et puis après on a aussi, j'ai commencé aussi à essayer d'intégrer en fait ces cultures musicales émergentes dans le théâtre, hein. Même sur des choses pointues qui auraient eu leur place au Pharos, on a essayé de les faire entrer un peu comme ça au forceps dans le cadre du théâtre à l'italienne.
Alors on avait
Divine Comedy.
Voilà, j'allais dire Divine Comedy.
Qui se portait très bien, parce que c'était un album qui s'appelait Casanova, qui était un peu comme ça, très proche de l'univers architectural du lieu, donc c'était plutôt bien.
Un concert qui est resté dans les mémoires. Oui. Hein. Un très beau concert.
Ouais. Enfin, moi aussi, mais pour d'autres raisons, parce qu'ils nous ont pourri les loges avant de partir. Mais des choses aussi depuis qui ont un peu fait parler la poudre, comme Pinback, qui est devenu une référence en indie pop américaine. On a aussi les frères Asher, leur première date en France. C'est les membres de No Twist qui ont joué à la salle de concert. Des choses comme Joseph Arthur aussi. Donc les No Twist, c'est quand même le groupe emblématique de chez More Music, de l'électropop allemande, et depuis, avec l'album Neon Golden, ils sont vraiment explosé. Donc c'était plutôt bien, quoi. On a essayé encore de faire en sorte qu'effectivement à Arras il se passe des choses, même si c'était un peu plus compliqué à mettre en place.
Ouais. Bon, on va quand même citer le groupe français que tu as programmé. Je cherche le nom.
Ce qui est angoissant, c'est que le groupe français, ça fait un peu le mec qui en avait programmé qu'un.
Le groupe français, à quelle occasion
J'arrive pas à trouver son nom.
Chante.
Je suis un Jedi.
Ah oui, Dionysos, tout à fait. Ah, oui.
Dionysos, quand même.
Ah, ça c'est cocasse. Ouais. Ah. Parce qu'en fait, Dionysos, ils ont été programmés en première partie d'un groupe américain qui s'appelait Lullaby for the Working Class. J'en ai reparlé avec Mathias depuis, hein. Il s'en souvenait très bien. Et en fait, dans la salle, on s'est retrouvé. Il y avait plus de monde sur scène que dans la salle, hein. Pour être clair, on devait être 20. C'était vraiment à l'époque où le Pharos avait perdu de son prestige et de son aura, et c'était difficile de produire là-bas. Et effectivement, Dionysos a joué devant ce groupe. Ils ont fait un concert d'une générosité. Mathias, fidèle à son habitude, a fait du trampoline pendant tout le set et a fait un super set. Et dans la salle, il y avait Stéphane Deschamps qui commençait sérieusement à être pigé de plus en plus pour les Arocs. Et il a fait un deux pages sur Lullaby for the Working Class. C'était un groupe de folk qui était très orchestré et qui était vraiment très subtil. Et puis il a été, c'est là où il a vu pour la première fois Dionysos, et je me rappelle sa réaction, il a dit oulala, je vais suivre ce truc, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'était un bon souvenir, quoi. Mais c'est marrant parce que quand on voit un peu ce qui se passe dans RAS aujourd'hui, ça, voilà, on se dit que.
Metallica, c'est pas toi, c'est ce que tu veux dire.
Non, c'est pas moi, mais à l'époque.
Pourtant, il a le look Metallica, genre.
Oui, c'est vrai.
Non, mais on aurait pu, si dans la continuité, sur la scène métal, des choses comme Rammstein, ça a joué chez mes petits camarades à l'époque où moi ça a fermé. C'est des choses qui me sont passées comme ça, où j'avais plus d'outils pour travailler. J'allais pas claquer un Rammstein en théâtrale italienne. Ouais. Mais ça a joué à l'époque, à l'Olympique à Nantes, devant 400 personnes, et maintenant c'est des plus gros headliners en Europe au niveau du métal.
Bon, on va évidemment pas passer toute l'émission sur ce que tu as fait à Arras, mais quand même, ton passage à Arras, significativement, c'est un peu l'histoire à la fois de la montée, de la réussite de la programmation des musiques nouvelles, et puis en même temps, l'échec à un moment donné de la programmation publique de ces musiques-là, et on arrive aujourd'hui à une situation. Bon, on va le dire quand même, bon, ça a été un échec, ton insertion au théâtre, ça s'est même mal terminé, puisque ça s'est terminé par un licenciement. Mais la disparition des musiques actuelles comme programmation d'une structure culturelle publique, c'est close en fait, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, c'est le privé.
Bon, je sais pas, moi je peux pas préjuger de ce qui va se passer maintenant au théâtre, vu qu'il y a apparemment une nouvelle équipe, qu'il y a un gros turnover qui a été opéré là-bas. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il y ait plus d'opérateurs publics pour clairement affirmer une volonté de soutenir à la fois la création, l'accompagnement de la pratique, le défrichage, ça laisse une place vacante. Effectivement, pour des opérations comme le Main Square. Je dis pas que c'est antagoniste, c'est même complémentaire. Mais à un moment donné, on peut se poser des questions sur le désert qui occupe l'espace public culturel après que le Main Square ait fini sa billetterie, quoi. Donc voilà. Après, c'est dommage parce que moi, Arras, ça a été pour moi une vraie école citoyenne. Sur les quartiers, j'ai vécu des moments forts, et d'avoir réussi à raccrocher les wagons de cette période pionnière où les musiques actuelles étaient en train de se professionnaliser, c'était une vraie chance pour que Arras se dote d'outils qui soient pérennisés pour que tout au long de ces années, des choses soient faites sur l'accompagnement de la pratique amateur, sur la diffusion artistique. Donc je pense qu'il y a eu une espèce de piège avec cette histoire du théâtre d'Arras. Moi je regrette pas complètement cette expérience, parce que j'ai pu y faire des choses qui étaient quand même... Enfin, on avait un vrai confort. Je repense au système des créations et ce que j'ai pu faire, par exemple, sur Fougou ou les scènes partagées. Donc, mais en même temps,
sacré belge,
voilà.
Faut le citer quand même.
Mais je pense qu'il y a quand même une vraie réalité de réactivité au niveau de l'industrie du disque qui rend les choses incompatibles avec des outils qui sont plus qui se donnent le temps de réfléchir, qui travaillent pas dans l'urgence, qui travaillent en termes de saison, donc voilà, c'est pas pour rien non plus que le dispositif SMAC a été conforté, parce que c'est effectivement des outils qui sont plus réactifs. Depuis, j'ai travaillé dans plusieurs SMAC, et effectivement je vois bien que
SMAC, faut traduire.
C'est scène de musique actuelle. C'est un peu le dispositif qui a suivi le dispositif des cafés musique. Mmh. C'est une logorée qui permet surtout aux institutionnels de se repérer dans les pratiques émergentes.
Pour boucler la boucle peut-être sur Arras, avant de passer à ce que tu as fait après, puisque tu vas faire maintenant. Justement, revenons rapidement quand même sur la programmation à Main Square, Radiohead, Metallica, Arras. Bon, je sais pas, toi t'es venu voir.
Oui, je suis venu sur Metallica. Ben, j'entretiens des bons rapports avec le promoteur. Moi j'aime bien aussi cette espèce de franchise de France, quoi. Elle vient faire des opérations qui sont...
Donc France le Duc, qui est l'organisation privée. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, bon, hein, là on parle de l'intérieur, mais vu de l'extérieur, Arras, Radiohead, Metallica la même année, plus d'autres groupes, je vais pas tous les citer, c'est quand même... Je pense qu'il y a des gens, mais voilà, qui doivent se dire, qu'est-ce qui se passe à Arras.
Mais moi, j'ai été le premier à dire qu'il y avait matière à valoriser ses places. Je me souviens de conversations. Alors après, on a été plutôt engagé dans des trucs qui sentaient un peu la chaussette. Enfin, je repense au concert de Johnny Hallyday. Enfin, c'est des choses qui, moi, artistiquement, j'ai du mal à défendre. Mais à l'époque, moi, je m'étais dit, un Nick Kev sur la Grand Place, ça avait du sens, quoi. Et j'avais été en contact avec quelques personnes qui travaillaient au service des fêtes. Et j'avais dit, mais vos places, faites-en quelque chose. Il y a des prods à Paris qui demandent que ça.
Mais toi qui étais à l'intérieur, ce type d'événement, ça peut ne passer que par du privé, quoi, enfin par des structures d'organisation privée.
Bah, les opérateurs publics là-dessus, ils existent. Hein. Il y a des économies qui se construisent, qui sont un peu à cheval entre ces logiques financières libérales et les montages publics. À Bourges, j'ai travaillé là-bas et c'est assez clair. Tout ce qui concerne la production, la billetterie, c'est d'ordre privé. Et puis tout ce qui est du domaine du réseau Printemps, c'est une autre structure indépendante qui justifie l'utilisation de fonds publics. Mmh. Donc il y a toujours possibilité. Moi, je repense par exemple à Aulnoy-Aymeri. C'est un festival qui s'ancre dans des vrais enjeux de citoyenneté, qui s'inscrit complètement dans l'urbanisme et dans la réalité sociale. Et là, il y a aucun opérateur privé qui viendrait sur ce territoire pour mener les actions qui sont faites. Et pourtant, la grille, elle est pas putassière, quoi. Elle est ambitieuse et on prend pas les gens pour des cons. Donc c'est toujours pareil, je pense, c'est une histoire aussi de volonté politique, hein, et ça va au-delà des clivages politiques, hein, moi je le vois bien parce qu'autour de moi, même les professionnels, par exemple, de l'accompagnement social, ils sont pas toujours convaincus de la pertinence de travailler sur le vecteur de la culture pour créer le mieux vivre ensemble, hein, donc c'est difficile chez le politique de trouver écho à ce genre de choses. La grande chance, par exemple, qu'on a, nous, avec le maire fraîchement élu à Tourcoing, c'est qu'il est convaincu. C'est quelqu'un qui croit bec et ongle que, effectivement, la culture sera source de liens et créera les conditions pour que les gens s'épanouissent et vivent mieux dans la cité. Donc ça, c'est vrai que c'est du pain béni pour des professionnels comme moi.
On parlera dans un instant du grand mix à Tourcoing.
Il est bon pour les transitions quand même. Hein. On va parler de Tourcoing un petit peu de fait.
Ouais. Alors, avant quand même, on va écouter un peu de musique. C'est la musique que tu as apportée.
Oui, c'est une découverte qui a encore, parce que ça a participé au festival Radar. C'est vraiment un artiste brillant qui s'appelle Mel Pomene, qui est suédois et qui va interpréter une chanson qui s'appelle I Adore You.
Lost in a daydream of blue, and I feel so free. And then it's like I fall from the sky. Everything that I see is you. And you should know that I'm thinking about what you said when you held my hand. Oh, I adore.
magazine Tumult sur Radio PFM, c'était Belpo Méné.
Melpo Méné.
Melpo Méné, Guy, tu connaissais ça?
Oui, bien sûr. I Adore You, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Bah, ouais, Renaud, il l'a fait ça, bon, non?
Alors, magazine Tumult, on est en compagnie de Patrice Budzinski, ouais. qui est le nouveau directeur, ça y est, c'est fait, de l'aéronef à Lille.
Donc, et, Jean, tu me ouais. posais une question, là, on en profite parce que Patrice, là, il recharge le.
Le quoi,
MP3, hein,
il recharge. Le quoi, non, c'est pas un MP3.
C'est pas un MP3, c'est, bon, c'est enfin, cool. Il va nous expliquer ce que c'est pour le prochain morceau. Mais je sais que tu me demandais quoi faire de ton argent. Je pense que tu as trouvé, là, tu vas prendre des actions aéronef, non?
Ouais, c'est
une idée. C'est pas parce que la crise se termine qu'il faut plus perdre d'argent.
Alors,
c'est un opérateur public, hein, ouais. Il n'y a pas de fonds de pension, ouais, hein, financé aéronef.
D'accord.
Non, mais c'est vrai que ça quelque part, y a, ça en dit long aussi sur la perception qu'on a de l'outil, parce que c'est vrai qu'avec cette jauge à 2000 places, on a du mal à affirmer la mission de service public du lieu. Mm-hmm. Parce que moi, je considère que quand on est 2000 à aller voir un concert, il y a un peu de pénurgisme dans le comportement, donc c'est difficile de justifier de l'argent public.
Alors, on va parler de l'aéronef, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais juste un mot quand même sur le grand mix. C'est l'étape suivante après Arras. Tu deviens programmateur.
Non, en fait, j'ai cumulé parce que j'étais sur un.
Oui, pardon, tu as été à mi-temps.
J'ai en fait, effectivement, commencé le grand mix tout en maintenant ma mission au théâtre d'Arras. J'ai demandé à passer à mi-temps. Et par contre, au moment de mon départ du théâtre d'Arras, j'ai commencé mes fonctions sur la programmation du Printemps de Bourges.
Printemps de Bourges, d'accord. En plus. Donc le grand mix à Tourcoing. Là, c'est pour mettre un peu en opposition ou en comparaison avec l'aéronef. C'est une salle donc à Tourcoing. C'est pas directement donc à Lille, c'est une salle de dimension type Pharos un peu, hein.
Un peu plus grand, mais c'est vrai que j'ai retrouvé les mêmes enjeux, voilà. Les mêmes problématiques.
Et donc une programmation, une convivialité, un accès simple, chaleureux.
Tu veux dire qu'il y avait un bar dans la salle?
Pas seulement. Pas seulement. Et c'est même pas l'essentiel. Ah. En fait, c'était une salle où on y accédait facilement, quartier. Ouais.
En fait, il y avait des enjeux parce que effectivement, Tourcoing avait souffré des mêmes problématiques que les quartiers ouest d'Arras, hein, une image médiatique peu reluisante, parfois pas toujours justifiée d'ailleurs. Un vrai déficit sur cet outil parce que il existait déjà depuis 4-5 ans, mais il n'avait pas pris sa réelle dimension. Donc on a une directrice qui arrive avec plein de courage et plein de bonne volonté et qui comprend vite que la meilleure façon de revitaliser l'outil, c'est d'affirmer une identité forte au niveau artistique. Et c'est là où j'arrive avec une proposition qui consiste essentiellement à placer la grille artistique au niveau de ce qui doit se faire à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une tournée, par rapport au routing des internationaux, il faut qu'ils trouvent une étape et que le Grand Mix soit identifié en tant que tel comme opérateur de ces tournées internationales.
Alors, bon, le Grand Mix, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu si, dans quelle mesure tu vas regretter le Grand Mix pour aller à l'aéronef. Bon, on avait un petit peu le schéma en tête qui est que l'aéronef, grosse structure, en pleine métropole, en plein centre, dans Lille, dans le bâtiment, l'ensemble Euralille, avec une salle, grande jauge, des capacités financières certainement plus importantes que toutes les autres salles aux alentours. On a un peu l'idée quand même de l'aéronef un peu dominant, un peu colonisateur, prenant un peu les marchés, entre guillemets.
Ouais, mais je pense que tu résumes aussi le problème de l'aéronef, c'est que voilà. Son côté surdimensionné est, à mon avis, le problème de l'aéronef. C'est-à-dire que je parlais notamment de la jauge, mais comment travailler avec du tissu associatif quand on est un mastodonte, quoi. On piétine forcément nos partenaires. Donc je crois que la difficulté... Bon, plus personnellement, moi j'ai eu du mal à prendre ma décision de postuler, tout d'abord parce que tout le schéma un peu artisanal et la convivialité qu'on avait à travailler ensemble au Grand Mix C'est quelque chose que je vais regretter. J'en suis quasi sûr, je le regrette déjà, et que en 7 ans, j'avais créé des liens forts avec mes collaborateurs, et puis l'outil avait vraiment une qualité, me donnait une qualité de travail qui était quand même enfin, c'est à part, quoi. J'ai vécu un truc vraiment extraordinaire là-bas. Donc ça a été pour moi très difficile du coup de d'envisager, mais en même temps j'ai pas envie de m'épuiser, j'ai pas envie de vivre ça médiocrement, quoi. J'ai vraiment envie de pas vivre la même chose qu'Arras, quoi, de dire voilà, on part sur une vraie pérennité, il y a un nouveau directeur qui est arrivé, on a des solutions en interne pour la programmation. Donc c'est bien la première fois où j'ai l'occasion de partir en ayant le sentiment que après moi c'est pas le déluge, quoi, que ouais. Que les choses vont continuer, que ça se passera bien.
Donc tu peux partir sereinement et être à 100% dans le nouveau projet vis-à-vis de l'aéronef, quoi.
Oui, enfin l'aéronef, c'est, enfin là-bas ils ont fait le choix aussi. C'est pas de Budzinski le programmateur, c'est aussi le projet qu'ils ont choisi. Donc ça me conforte aussi dans l'idée que j'avais une analyse, un diagnostic sur l'outil et une proposition au niveau du projet qui était pertinente. Donc c'est rassurant parce que je voulais pas que ça soit un effet de manche. Ils se sont déjà trompés deux fois, donc. J'ai pas envie qu'ils me viennent, qu'ils voient en moi une espèce de mercenaire culturel, roi de la prog, et qui vont leur en mettre plein les yeux. D'accord. Donc, ce qu'ils ont validé, c'est avant tout un projet d'établissement qui affirme plus fort la mission de service public du lieu et qui lui donne un vrai ancrage dans la cité. Donc, j'ai articulé ma réflexion en posant une grande part de diagnostic. D'ailleurs, quand j'ai mené la réflexion de ce côté-là, j'avais déjà un peu l'impression d'avoir les mains dans le moteur parce que il a fallu parler de ce côté surdimensionné de l'outil, mais aussi de son problème de visibilité. Parce que il a beau être très grand, vous pouvez passer 10 fois dans la rue sans le voir parce qu'il est noyé dans un ensemble architectural, il est pas très valorisé et puis il est en hauteur. Donc, il y a tout un tas de problématiques qui vont de la symbolique à des trucs très concrets. On le sait tous, quoi, le grand jeu, c'est aussi d'aller à l'aéronef et de pas se planter d'escalier pour arriver à la salle, quoi. C'est devenu la blague, le running joke de l'usager. Donc toutes ces choses-là, j'étais pas différent des autres usagers. C'est-à-dire que là, ça a été très pragmatique. J'ai fait cette synthèse, j'ai analysé ça. Et à côté de ça, j'ai démontré que dans les enjeux d'aujourd'hui, c'était capital qu'effectivement l'aéronef se réconcilie avec sa mission de service public. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, même si dans la jauge de 2000, on peut y injecter de l'argent de façon légitime parce que ça permet d'amortir le prix du billet, mais en même temps, c'est pas là-dessus que vont se faire les enjeux. Et que là, on n'a pas besoin de nous. Je veux dire, là, on est dans une logique de mini-zénith, donc ça peut se faire sans nous. Donc l'idée globale, c'est que ça, on va l'accompagner parce qu'on sait faire et que ça permet aussi de récupérer aussi 3 francs 6 sous. Et c'est pas négligeable à l'heure où les financements publics sont un peu fragilisés. Mais à côté de ça, il faut pouvoir investir le terrain. Et moi, je suis parti d'un diagnostic assez simple. C'est que maintenant, il y a une vraie dimension patrimoniale sur les musiques actuelles. Le rock'n'roll a 50 ans. Maintenant, on se retrouve souvent dans des problématiques de garde d'enfants pour aller voir les concerts. Donc, moi, je me suis intéressé à comment travailler un axe sur les non-publics qui puisse concerner tout le monde dans la famille. Et le vecteur fort que j'ai mis en place, c'est travailler sur la petite enfance, mais avec la matière première des musiques actuelles. Donc ça, c'est l'axe central de mon projet d'établissement. C'est qu'en gros, je convoque la famille autour d'une pratique. Et je veux que tout le monde se l'approprie avec ses propres codes.
Je pense qu'on a le sentiment d'une révolution à l'aéronef dans ce que tu dis. Tu diagnostiques de manière assez sévère quand même le lieu.
Ah ben je pense
l'ensemble, son fonctionnement. Non,
mais je pense
le
qu'il y a
caractère
grave, grave erreur. Mais c'était l'époque pionnière et je pense que là il n'y avait pas le recul nécessaire pour se rendre compte que dans la surenchère au niveau de la dimension, on se perdait. C'est-à-dire rue Colson. Pour ceux qui connaissent pas la période de cet aéronef, cette dimension à la période pionnière a permis de créer un contact avec la réalité artistique et le public qui était d'un confort inégalé. C'est-à-dire que là, on avait dans ce rôle de passeur, tout était possible. Même au-delà, enfin, parce que les concerts se finissaient souvent dans la rue. Enfin, je me rappelle de concerts assez extraordinaires, les Flechton. Donc cette période-là qui a créé une symbolique très forte, on a cultivé cette nostalgie. Et quand on est parti de l'autre côté, on s'est dit si on est plus grand et si on est plus fort, ça sera encore 10 fois mieux. Et en fait, on n'a pas surajouté du talent, on n'a pas surajouté des moments uniques. Au contraire, on s'est perdu dans quelque chose qui correspondait plus à rien. Mmh. Maintenant, il faut faire le deuil de ça. Dire l'aéronef d'aujourd'hui, c'est un aéronef qui doit tenir compte de la réalité culturelle, économique, du rapport à l'industrie qui a sensiblement évolué, et aussi aux politiques où les attentes sont différentes. Quand on est en capacité de proposer au cœur d'un dispositif et d'un équipement comme ça, de prendre en compte la problématique de la petite enfance, bon, j'invente rien. Regardez, les IKEA, ils l'ont fait bien avant nous. Hein. Mmh. Pour mieux acheter vos meubles, on vous garde vos gosses. Hein. Pour mieux appréhender le spectacle vivant, en prenant en compte la cellule familiale, on se donne une bonne raison d'agir sur la cité. Parce que ce problème-là, il est récurrent dans les grandes villes. Mmh.
Donc les enfants et les petits-enfants, hein, puisque le rock'n'roll a 50 ans.
Tout à fait. Hein,
ouais. Il faudra bien qu'il fasse garder ses petits-enfants quand ils vont aller au concert.
Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Hein, au Grand Mix, on a organisé ce qu'on appelle les goûters-concerts. Mmh. Et les gamins s'approprient la même matière artistique que les parents le soir. Mais à part qu'on s'adresse aux enfants, on joue un peu moins fort, il n'y a pas de bière au bar, et voilà, c'est du choupa choup, c'est de la limonade. Mais les enfants s'approprient la même matière. Ce qui fait qu'autour de la table, le lendemain, on peut discuter d'un même prétexte. Enfin, on prend le même prétexte pour avoir une discussion de fond sur ce qu'on vit, sur... voilà, c'est intéressant. C'est bien de voir aussi les parents se battre parce que le gamin a piqué le disque qu'on voulait écouter.
Ouais. Alors bon, ce qu'on a un peu de mal à imaginer, c'est cela se réalisant dans ce lieu. Parce que quand même, ce qui caractérise l'aéronef aussi, c'est que c'est dans un quartier qui n'est plus un quartier, enfin qui est désincarné. C'est
un quartier de vie, c'est un quartier commercial, quoi.
Commercial.
Mais c'est au cœur de la cité. Donc après, faut trouver. Moi, je sais pas, j'ai pas complètement toutes les solutions. Faut que j'arrive un peu dans l'équipement, mais vous savez, vous mettez un tipi dans la salle et 30 gamins dedans, et vous avez déjà un tipi. Vous avez plus une grande salle de 2000 places. Je pense qu'il y a des solutions. Là-dessus, je fais confiance à l'équipe pour être force de proposition. Mais après, il faut aussi sortir des murs. Moi, mon idée, c'est pas d'être en haut de ma tour et puis de jeter du grain et d'attendre les pigeons. Hein. Je pense que les lieux de vie de la petite enfance, c'est les crèches, c'est les haltes garderies, et là-bas, ils sont en attente. Hein.
Donc l'aéronef, action culturelle.
Ouais.
Renouer avec l'action culturelle, clairement. C'est pas simplement de la programmation.
Ah ben clairement, avec un axe fort, effectivement, sur ce que je viens de décrire. Aller là, parler de l'aéronef en culpabilisant les gens, en disant t'es con, t'y vas pas, tu connais pas. Moi, c'est pas ma stratégie. Moi, c'est tu connais pas, ton gamin il va t'expliquer, parce que là, nous on vient de venir avec Mel Pomenet, on a fait une demi-heure de concert, et lui il va te dire que c'était bien, quoi, qu'il faut que t'ailles voir, quoi. Et je pense que là, c'est une bonne façon de désacraliser Dieu, et puis arrêter dans la culpabilité, parce que les gens qui n'ont pas de pratique autonome culturelle, ils ont plein de raisons pour pas le faire.
Ouais, le lieu, quand même, un mot, c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec toi, genre, enfin, déjà la place dans la cité, mais en même temps, il y a l'exemple, par exemple, l'exemple du Tripostal, où il y a une démarche, alors que c'est juste à côté, quoi. Je pense que c'est un lieu culturel qui est vécu autrement que...
Qui a une histoire aussi.
Oui, mais bon, c'est au même endroit.
L'aéronef a maintenant une histoire, hein. Il s'est passé, ou il s'est pas passé des choses, mais en tout cas, il est là, il constitue un enjeu, le bâtiment, en tout cas dans sa fonctionnalité, son ergonomie n'est pas si dégueulasse que ça. Et puis il y a du transit. Enfin, faut pas penser non plus qu'il se passe rien dedans. Enfin, l'outil quand il accueille les vieilles gloires de Led Zeppelin, c'est blindé, c'est gavé de monde. Il y a plein de dates où c'est gavé de monde. Mais là, on avait un rapport. On venait consommer un peu comme à la cantine d'entreprise ce qu'on voulait voir. Et puis on passait à autre chose. Là, l'idée globalement, c'est continuer ça parce que ça, l'outil a cette ergonomie-là, cette fonctionnalité-là. Donc faut continuer. Mais par contre, à côté de ça, il faut créer toute une dynamique basée sur le participatif, sur l'action de terrain, sur la rencontre avec des dons publics qui rendent plus légitime le fait qu'on soit avec des financements publics.
Alors Patrice, bon, une structure culturelle, on le sait quand même, c'est une association. Je pense que c'est le statut associatif.
C'est le cas, hein.
Ouais. Une structure comme celle-là, ce sont des tutelles, c'est-à-dire les gens qui donnent les subventions, conseil régional, l'État, la DRAC, la ville de Lille, ou peut-être la communauté urbaine, je ne sais pas. Est-ce que là, Bon, tu disais que tu as été choisi sur ton projet. Est-ce que tu sens une volonté politique claire et nette de ces tutelles pour appuyer un tel projet, quoi?
Dans la shortlist qui avait été constituée, il y avait vraiment deux choix qui allaient pouvoir s'opérer. Soit on restait sur... Après, c'est difficile de parler, je peux pas parler à la place du jury, mais c'est vrai qu'il y avait en face de moi des gens qui avaient des profils de gestionnaires capables, effectivement, de maintenir à flot la boutique en faisant ronronner l'outil, mais en ayant un plan comptable imparable. Et en faisant respecter aussi le cadre conventionnel imposé par les tutelles. Et à côté de ça, ils avaient cette possibilité à nouveau de revivre une aventure basée sur une ambition artistique forte. Donc, le choix qu'ont fait les tutelles, et a priori ça s'est fait à l'unanimité, démontre effectivement que ils veulent le vivre, quoi. Ils continuent à penser que cet outil n'a pas révélé tout ce qu'il avait dans le ventre et que c'était peut-être pas la bonne façon de prendre les choses en main. Alors je sais pas, moi je veux pas non plus faire apparaître comme quelqu'un de prétentieux, mais moi j'ai ce regard un peu besogneux et puis très pragmatique des choses. Je pense que il faut pas forcément faire des choses tape à l'œil, très démonstratif. Il y a des choses toutes simples qui sont à la portée de toutes les bourses et qui en disent long sur comment conquérir des publics. Hein. Un mec avec une guitare, il est aussi efficace quand on veut avoir une vraie proximité avec du public que une grosse orchestration de pop orchestrale, même si c'est pas la même chose. Mais moi, je sais aussi faire avec peu de moyens. Donc, les structures dans lesquelles j'ai travaillé n'avaient pas forcément le confort qu'avait l'aéronef. Donc, j'essaie de les rassurer de ce côté-là, quoi, parce que je pense qu'ils ont été pas mal échaudés par des profils artistiques et qui partait à tout va au niveau des dépenses, quoi.
Ouais. Avant de revenir sur ton projet, sur ce que tu as envie de faire à l'aéronef, peut-être, bon, tu l'as dit plusieurs fois, il y a des projets qui ont échoué, etc. Mais qu'est-ce qui se passait exactement, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéronef, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'encore une fois, vu de l'extérieur, bon, moi je suis allé plusieurs fois ces dernières années, il y a quand même toujours du monde, il y a une programmation qui n'est pas inintéressante, au contraire. Donc qu'est-ce qui ne collait pas? Pourquoi il y a eu comme ça plusieurs directeurs, enfin
après l'échec, c'est difficile de
c'est
parler.
C'est essentiellement moi, financier, c'est.
Non, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même un problème structurel. J'ai récupéré, par exemple, les ordres de marche. Enfin, c'est le terme un peu technique pour évaluer les coûts de production quand on met en route. C'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est à côté de ce qu'il me faut mettre en banle pour produire au grand mix. Il n'y a pas photo. Donc ça veut dire quand même, à un moment donné, quand on veut faire une petite forme artistique qui n'a pas d'impact économique, qu'on va payer 700 euros, derrière, on a tellement de frais d'exploitation que ça rend forcément la chose fragile. Donc là-dessus, il va falloir que je trouve des solutions parce que on n'a pas le luxe, même aujourd'hui, de si je dois redynamiser par exemple la programmation en faisant un peu plus de choses dans le club, si ça me coûte 6000 euros à chaque fois que je mets la clé dans la serrure, ça sera pas plus possible avec moi qu'avec un autre. Hein. Mmh. Donc il y a ça, donc il y a vraiment un problème structurel. C'est-à-dire que quand on a un outil comme ça où tout est au ratio de la jauge 2000, bah, quand on fait pas de la jauge 2000, bah, on mange ça fait deux matchs. Hein.
On va faire une petite pause musicale, on a beaucoup parlé. Patrice, tu nous présentes le morceau.
Alors c'est pareil, c'est un coup de cœur, c'est un groupe qui s'appelle Menomena, signé chez City Slang, originaire de Portland. C'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup écouté à une période un peu triste de ma vie perso, et je le trouve vraiment brillant, et c'est le titre en dit long, ça fait écho à une personne qui me tenait à cœur, voilà. We'll be right back.
Magazine Tumult sur Radio PFM, on écoutait Menomena, musique qui vous a été proposée par Patrice Budzinski, donc nouveau directeur de l'aéronef qui en fait prend ses fonctions au 1er novembre, c'est ça Patrice?
Ouais, début novembre, ouais.
Ouais. On va continuer sur le projet que tu vas développer à l'aéronef. Guy, une question pour... Dernière salve de questions.
Bon, t'as parlé, j'ai l'impression que ça t'inspirait des enfants. Alors, effectivement, il va y avoir une garderie, il va y avoir quelque chose pour...
Ah, bah, ce serait bien que dans 3-4 ans, effectivement, il y ait une garderie. Non, mais c'est vrai parce que, enfin, ça rejoint un peu l'évolution qu'il y a chez les usagers de ce type de lieu. Mais en plus, il se pose une vraie question de l'utilisation du lieu en fonction diurne. Au début d'ailleurs, la première mouture du projet à l'époque du transfert rue Colson à Euralille, c'était que le bar devait être un lieu de vie à la journée. Et en fait, pour motiver les gens pour monter les 3 étages en pleine journée, il fallait faire des prises d'otages. Donc, mais peut-être qu'il faut analyser et dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire qui donnerait une fonction diurne au lieu la journée. Si on veut aller au bout du truc, sur mon questionnement autour de la petite enfance, des gamins et tout, ça peut être une piste effectivement d'avoir, surtout qu'on pourrait s'en servir pour expérimenter, faire une crèche parentale à thématique musicale.
Alors, bon, tu connais les lieux, hein, toi t'aurais un rêve de voir un groupe là dans cette salle.
Au niveau de la programmation, ouais. Là, j'en ai plein sous le pied là.
Non mais le Est-ce que t'aimerais voir
là? Ah bah, il y en a plein. Enfin, Tom Waits, Nick Cave, Elvis Costello. Enfin.
Tu l'as vu cet été à Paris, Tom Waits?
Non, non, je l'ai pas vu parce que c'est un peu la foire d'empoigne pour un des places. Mais c'est là où on se dit que l'argent public a du sens parce que avoir les jeunes fougueux anglo-saxons, ça peut être fait par un opérateur privé. Par contre, ces choses-là qui sont un peu plus de la dentelle de Bruges, on perd de l'argent quand on les produit. Ils ont beau être signés sur Epitaph, les Tom Waits, ça cache tonne. Quand même sévère.
Moi, j'avais vu à l'aéronef Marc Ribot. Et la particularité, c'est que c'est la première fois que je voyais ça. La scène était au centre de la salle.
Ouais. Enfin,
c'est-à-dire qu'on
pouvait. Une scénographie adaptée.
On pouvait tourner et ça, c'est intéressant comme.
Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est l'histoire de coups. À ce propos, Marc Ribot joue au Grand Mix aussi. Et. Non, mais c'est
une autre formation. C'était. C'était les chiens de faïence, là. Je sais plus le nom en anglais.
En tout cas, travailler sur des
cubains, musique cubaine.
Musique cubaine.
Travailler sur des scénographies différentes et tout, c'est pareil, c'est des challenges qui sont intéressants. En plus, ça permet aussi à l'équipe technique de s'exprimer et de s'approprier une partie artistique. Je le faisais souvent d'ailleurs au Grand Mix avec Jean-Yves, que je salue. Sur Abony Prince Billy, on inversait la scène. La scène a été à ras du sol derrière le bar et tout le monde était assis en tailleur sur des poufs. Donc c'est des choses qui permettent aussi de donner une fonction magique au lieu et de pas rester dans du puis s'adapter aussi aux propos artistiques tout simplement. Donc oui, j'ai ça en tête, mais voilà, il faut que je sois en place, que je vois un peu l'économie qui est possible de générer pour tous ces projets. Mais sur les groupes que j'ai en tête, oui, il y en a encore, malgré que j'ai 15-20 ans de programmation, j'en ai quand même flopé, là, je verrais bien. Il y a les Monochrome 7 qui se sont reformés d'ailleurs, qui font une date exceptionnelle là, à Londres pour leurs 20 ans, et je me ferais bien un petit plaisir. Un petit Julian Cop aussi, tous ces voilà, il y en a encore. Les Flaming Lips, trop rares dans le nord de la France.
Le lien avec les associations, parce que Lille, bon, ça déborde quand même au niveau culturel. Bon, par exemple, moi la semaine dernière, j'étais à Oisem, il y avait un premier festi Soul Music de Oisem. Donc c'est une petite association, c'est un petit bar de Oisem qui a eu cette idée. Donc c'était à la maison Folie de Oisem. Est-ce qu'il pourrait y avoir des collaborations avec des petites associations comme ça qui
c'est pas ce qu'il peut, c'est que l'idée générale, c'est de réussir à trouver un terrain d'entente. Mais ce que j'avais répondu au moment de mon entretien, c'est chacun a son identité à défendre, chacun a aussi ses propositions à faire. Par contre, là où on peut se fédérer, c'est s'il y a un projet fort qui pourrait mettre tout le monde autour de la table. Moi, je me rappelle, je suis un peu nostalgique de cette époque, mais rappelez-vous du festival des Enfants Terribles qui avait vu, c'était Grimont-Pré, être investi par les Pixies, par Noir Désir. Et je pense que toutes ces équipes qui interviennent au quotidien sur le terrain, on pourrait réussir à les mettre autour de la table si effectivement on pouvait porter un moment fort, un temps fort sur la métropole qui donne envie à chacun de collaborer et de participer. Après, ça se décrète pas, le partenariat. C'est des histoires d'affinité, c'est des histoires de complicité artistique et de d'enjeux de territoire. Donc moi j'en tiendrai compte parce que j'ai pas cette vision j'ai pas envie d'arriver comme et de pachydermiser le terrain avec des effets de manche quoi. Je serai à l'écoute, puis il y a une espèce d'expertise aussi à trouver chez les associations militantes qu'on n'a pas forcément dans des esthétiques très barré, très pointu. Il vaut mieux aller voir l'asso militante qui fait ça tout au long de l'année si on veut faire le truc bien que de s'improviser passionné du truc du jour au lendemain.
Alors on a parlé de l'appui des tutelles, enfin qui sont quand même derrière ton projet puisqu'elles l'ont choisi. Est-ce que tu vas avoir l'équipe professionnelle qui correspond au projet que
ça je vais voir. Il y a une équipe qui est là. Moi, je suis plutôt optimiste par nature. Je pense que si ça ronronnait un peu, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'horizon qui se dégageait pour eux. Donc là, avec un projet fort, je pense que ça va fédérer un peu les envies, qu'ils vont trouver matière à s'exprimer professionnellement.
Il y a combien de personnes qui...
Ouais, ils sont 13 permanents. Après, il y a énormément d'intermittents qui interviennent suffisamment pour aussi donner l'image d'être des permanents. Mais Je pense que c'est un lieu qui est fort symboliquement, où chacun en plus a une vraie charge affective, parce que on a connu la rue Colson. Donc les gens ont vraiment envie, je pense, de s'exprimer à travers leur fonction dans la structure. Je pense qu'ils je me fais pas de soucis là-dessus.
Alors tu prends tes fonctions au 1er novembre, mais en fait la programmation est déjà faite
Il y a des choses sur lesquelles ils sont engagés. Maintenant, ouais. Je vais voir un peu quelle marge de manœuvre j'ai à partir du moment où je vais récupérer.
Tu penses essayer d'imprimer un peu le changement à partir de quand, et sur quoi en gros tu vas commencer à travailler?
C'est impossible pour moi de gérer ces frustrations là. Je pense que dès que je vais arriver, en plus il y a une vraie pression au niveau des tourneurs qui me connaissent, qui m'ont identifié, qui commencent déjà à m'appeler pour voir comment on cale ça à l'aéro. Donc je vais quand même imprimer ma patte dès la rentrée de janvier, hein, je pense.
Eh ben, Patrice, on va être attentif à ton travail à l'aéronef, hein, Guy.
Très très attentif.
C'est bien, merci.
Et on te souhaite bonne chance, et puis on souhaite bonne chance à l'aéronef pour toute la région et même l'euro-région, on peut dire, parce que c'est un enjeu.
C'est un enjeu, et puis bientôt on va fêter les 20 ans de l'aéronef, j'en parlais avec Guy, donc vous serez conviés à faire écho aussi à l'événement, parce que je pense qu'il va falloir un peu avoir ce regard dans le rétro là dans les mois à venir.
Patrice, merci. C'était donc Patrice Binzinski, nouveau directeur de l'aéronef à Lille, qui était l'invité de Tumult sur Radio PFM. Tumult, c'est terminé. À la semaine prochaine. Ciao.